Oscar Wilde, La cruauté dans les prisons, au directeur du Daily Chronicle. Monsieur, je lis avec un grand regret dans les colonnes de votre journal que le gardien Martin de Reading Prison a été révoqué pour avoir donné quelques biscuits à un petit enfant affamé. J'ai vu les trois enfants, moi-même, le lundi précédant ma mise en liberté. Ils venaient d'être condamnés et se tenaient en rang dans le hall central, vêtus du costume des prisons et portant leurs feuilles sous les bras, prêts à se être conduits dans les cellules qui leur étaient désignées. Je suivais par hasard une galerie menant au parloir où je devais avoir une entrevue avec un de mes amis. C'étaient de tout petits enfants. Le plus jeune, celui auquel le gardien donna les gâteaux, était un petit maigrelet pour lequel on n'avait évidemment pas trouvé de costume assez petit pour le vêtir. J'avais certainement vu bien des enfants détenus au cours des 2 ans durant lesquels je fus moi-même emprisonné. La prison Wandsworth, spécialement, contenait toujours un grand nombre d'enfants. Mais le petit enfant que je vis dans l'après-midi du lundi 17 était plus petit et plus maigrelet qu'aucun d'eux. Je n'ai pas besoin de dire combien je fus affligé de voir ces gamins à Reading, car je savais quel mauvais traitement leur était réservé. La cruauté qui est pratiquée nuit et jour sur les enfants de ces prisons anglaises est incroyable, excepté pour ceux qui en ont été témoins et savent à quel point ce système est brutal. Aujourd'hui, on ne peut comprendre ce qu'est la cruauté. On la regarde comme une sorte de terrible passion médiévale. On la rattache à la race des Exceline da Romano et autres, chez lesquels la vue d'une torture délibérément appliquée provoque une véritable folie de plaisir. Mais ces hommes de cette trempe ne sont que des types anormaux à l'individualisme perverti. La cruauté ordinaire n'est tout bonnement que de la stupidité. C'est l'absence totale d'initiative. C'est le résultat de toute une époque de systèmes figés, de hard and fast rules, d'imbécilité. Là où il y a centralisation, il y a stupidité. Ce qui est inhumain dans la vie moderne, c'est l'officiel. L'autorité est néfaste, autant pour ceux qui l'exercent que pour ceux qui la subissent. C'est le prison board, le système qui en découle, qui est la source première de la cruauté exercée sur les enfants dans les prisons. Ceux qui maintiennent le système ont d'excellentes intentions. Ceux qui l'appliquent sont humains en intention également. La responsabilité est reportée sur le règlement disciplinaire. Une chose est supposée juste et vraie lorsqu'elle est incluse dans le règlement. Le traitement actuel des enfants est terrible, et cela tient en premier lieu à ce que ces gens ne comprennent pas la psychologie particulière de la nature enfantine. L'enfant peut comprendre une punition infligée par un individu ou par un gardien et la supporter avec une certaine dose de soumission. Mais ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est la punition infligée par la société. Il ne peut concevoir ce qu'est la société pour l'homme fait. C'est certainement l'inverse. Ceux qui sont ou ont été en prison peuvent comprendre et faire comprendre ce que cette force collective appelée société signifie, et que nous pouvons penser des méthodes et des prétentions. Nous pouvons penser et nous efforcer de l'admettre. La punition que nous inflige un individu, d'autre part, c'est une chose qu'un homme fait, n'endure pas ou ne l'entend pas endurer. L'enfant, conséquemment, enlevé loin des siens par des gens qu'il n'a jamais vus, qu'il ignore complètement, se trouvant jeté dans une solitaire et peu familière cellule, surveillé par des figures étrangères, commandé et puni par des représentants d'un système qu'il ne peut comprendre, devient immédiatement la proie de la première et plus profonde émotion produite par la vie des prisons modernes, la notion de l'émotion de terreur, la terreur de l'enfant en prison est sans bornes. Je me rappelle qu'une fois, à Reading, comme je sortais pour la promenade, je vis dans une cellule à droite de la mienne un petit garçon de geôlier, de gens pas méchants du tout, non. Lui causait avec une apparente sévérité, peut-être en lui donnant un utile conseil sur sa conduite. L'un était dans sa cellule, l'autre se tenait debout dehors. La figure de l'enfant était blanche de terreur. Il avait les yeux, dans ses yeux, la terreur de la bête traquée, la terreur qui saisit et domine l'enfant, comme l'homme du reste, serait intensifiée au point qu'on ne saurait le dépeindre par le système de la cellule individuelle. Chaque enfant est emprisonné dans sa cellule durant 23 heures sur les 24 du jour. C'est là une chose épouvantable. Enfermer un enfant 23 heures sur 24, c'est l'exemple de ce que l'imbécilité comporte de cruel. Qu'un individu, parent ou agent, garde, agisse de la sorte envers un enfant, il sera sévèrement puni. La Société pour la protection de l'enfance se saisira de l'affaire immédiatement, et quiconque sera rendu coupable d'une telle cruauté sera voué à l'exécration de tous, et une sévère condamnation lui sera infligée. Mais notre société actuelle fait pire que cela, car pour l'enfant, être traité de la sorte par une étrange force abstraite de laquelle il ignore les prétentions, c'est pire que de subir les mêmes traitements que lui infligerait son père, sa mère ou quelque autre personne qu'il connaîtrait. Le traitement inhumain d'un enfant, d'où qu'il vienne, est toujours inhumain. Cela va sans dire. Mais appliqué par la société, c'est plus terrible car il est sans appel. Un parent ou un garde peuvent retirer un enfant du cabinet noir où il est enfermé. Mais un geôlier ne le peut pas. Beaucoup de geôliers adorent les enfants. Mais le règlement leur défend de leur prêter la moindre assistance. S'ils le font, comme le fut le gardien Martin, ils sont révoqués. La seconde chose dont l'enfant souffre en prison, c'est la faim. La nourriture qui lui est octroyée consiste en un morceau de pain de mauvaise qualité, de pain de prison, comme on dit, et d'un gobelet d'eau. Pour le déjeuner à 7 heures. À midi, on lui donne un plat composé d'une gamelle de grossier maïs et à 5 h 30, un morceau de pain sec et un gobelet d'eau pour son souper. Cette diète, lorsqu'il s'agit d'un homme robuste, engendre toujours des désordres de toutes sortes, mais surtout de la diarrhée. Et cet état de faiblesse, qui en est la conséquence? En effet, dans les prisons, les médicaments astringents sont régulièrement donnés par les gardiens comme des choses nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, celui-ci est tout à fait incapable de se faire à cette nourriture. Quiconque connaît quelque peu les enfants sait combien faiblement la digestion peut être troublée par un accès de larmes ou d'un chagrin quelconque. L'enfant qui a crié tout le jour et parfois une moitié de la nuit dans sa cellule obscure et isolée ne peut manger cette grossière nourriture. Et c'était le cas de l'enfant auquel le gardien Martin donna des biscuits. Le gamin avait crié famine toute la matinée du jeudi, dans l'impossibilité qu'il était de manger le mauvais pain sec qu'on lui avait donné pour son déjeuner. Mais Martin revint après la distribution et lui apporta ces quelques biscuits en question, afin qu'il ne tombât pas d'inanition. Oh, c'était là une belle action de sa part, et l'enfant le reconnut. Et dans sa parfaite ignorance du règlement de prison, dit à un des vieux geôliers combien le jeune gardien avait été gentil pour lui. Ah, cela eu pour résultat un rapport et une révocation. Je connais parfaitement Martin, car je vis sous sa surveillance les 7 dernières semaines de ma détention. À Reading, il est de service à la galerie, celle où je me trouvais. Je vous voyais donc constamment, et j'étais frappé de l'aimable et humaine façon dont il me causait, ainsi que les autres prisonniers. Les mots aimables sont beaucoup en prison. Et un plaisant bonjour, bonsoir, rend heureux, autant qu'un prisonnier puisse l'être. Il fut toujours correct et plein de considération. Oh, je sais d'une autre affaire dans laquelle il se montra d'une grande amabilité envers un prisonnier, je ne résiste pas au plaisir de vous la citer. Une des plus horribles choses en prison est la mauvaise organisation au point de vue sanitaire. En aucune circonstance, il n'est permis aux prisonniers de quitter sa cellule après 5 heures et demie. Si, souffrant de la diarrhée, on a dû employer sa cellule comme une latrine, il faut passer la nuit dans cette atmosphère fétide et malsaine. Or, quelques jours avant ma mise en liberté, Martin vint faire la ronde de 7 heures et demie, accompagné d'un grand vétéran, dans le but de ramasser l'étoupe et les outils des prisonniers. L'un d'eux, souffrant de coliques, conséquence du régime, comme c'est toujours le cas, demanda au garde vétéran l'autorisation de vider le bassin de sa cellule afin d'être débarrassé de l'horrible odeur et de n'être pas indisposé pendant la nuit. Le vétéran refusa catégoriquement. Tout était contre le règlement. L'homme devait ainsi passer la nuit dans d'affreuses conditions. Martin, cependant, plutôt que de voir ce malheureux dans un état aussi répugnant, lui dit qu'il viderait les bassins. Et il le fit. Le geôlier, vidant les bassins d'un prisonnier, c'est évidemment contraire au règlement. Martin rendit ce service à l'homme mis en dehors de l'humanité la plus élémentaire. Et le prisonnier, naturellement, lui fut très reconnaissant. On a beaucoup dit et beaucoup écrit ces temps-ci à propos de l'influence contaminante de la prison sur les jeunes enfants. Ce qu'on a dit est en tout point exact. L'enfant est entièrement contaminé par la vie de la prison. Mais l'influence contaminante n'est pas celle des prisonniers, c'est celle du système pénitentiaire tout entier, du gouverneur, du chapelain, des geôliers, de la cellule individuelle, de l'isolement absolu, de la nourriture révoltante, des règlements établis par les presence commissioners, du système disciplinaire, en un mot, de la vie. On veille attentivement à ce que l'enfant soit isolé du regard même des prisonniers âgés de plus de 16 ans. À la chapelle, les enfants sont derrière des rideaux qui les cachent. Et pour la promenade, ils sont envoyés dans des cours étroites où il ne pénètre jamais le soleil, parfois sur une cour entourée de murailles, parfois sur une cour derrière les bâtiments. Tout cela pour qu'ils ne puissent pas voir les prisonniers plus âgés à l'exercice. Je n'aimais pas la vie que les enfants cessent d'être dissimulés derrière des rideaux à la chapelle ou qu'ils prennent leur promenade dans une cour commune. Je fais simplement remarquer que la mauvaise influence sur les enfants n'est pas et ne sera jamais celle des prisonniers, mais est et sera toujours celle du système pénitentiaire lui-même. Dans Reading, il n'y a pas un seul homme qui doit subir avec joie à leur place la peine infligée aux enfants. Lorsque je vis pour la dernière fois ce mardi qui suivit leur condamnation, j'étais à la promenade de 7h30 en la compagnie d'une douzaine d'autres prisonniers et les trois enfants passèrent près de nous sous la surveillance d'un gardien. Venant de la cour sombre et lugubre à laquelle ils avaient pris l'exercice, je vis quelle immense pitié emplissait les yeux de mes compagnons lorsqu'ils les regardèrent. La souffrance et la communauté des souffrances chez ces gens eut pour conséquence l'amabilité et la sympathie naturelle. Et de jour en jour, en foulant les pieds, les pavés, la cour, je constatais avec plaisir et soulagement que Carlyle, avait lui dit quelque part: le charme rythmique et paisible de l'humaine association. Si, comme en beaucoup d'autres choses, les philanthropes et tous les gens de cette sorte s'égarent, ce ne sont pas les prisonniers qui ont besoin d'être réformés, c'est le prison. Nul enfant au-dessous de 14 ans ne devrait être envoyé en prison. C'est une absurdité. Et comme beaucoup d'absurdités, elle a souvent une fin tragique. Si cependant ils doivent être emprisonnés, durant les heures du jour, ils devaient être placés en un atelier ou en une école avec un gardien. La nuit, ils dormiraient dans un dortoir avec un gardien pour les surveiller. Il devrait leur être permis de se promener au moins 3 heures par jour. Les cellules Les prisons sont sombres, mal aérées, malsaines et terribles pour les enfants, comme pour n'importe qui d'ailleurs. L'air qu'on y respire est un air toujours vicié. On devrait nourrir l'enfant de thé, de pain beurré et de soupe. La soupe des prisons est excellente et très saine. Une résolution de la Chambre des communes réglementerait le traitement des enfants en une demi-heure. Aussi, j'espère que vous userez de votre influence, monsieur, pour que cela soit. La manière dont on traite les enfants à l'heure actuelle est une injure à l'humanité et à son bon sens. Oh, c'est une conséquence de l'imbécilité. Laissez-moi attirer votre attention sur une autre chose terrible qui se passe dans les prisons anglaises et, à la vérité, dans toutes les prisons du monde entier, où le système du silence et de la détention cellulaire est pratiqué. Je veux parler du grand nombre d'individus qui deviennent fous ou faibles d'esprit en prison. Dans les prisons spéciales, cela est évidemment de tradition, mais dans les prisons de détention ordinaire, comme celle où j'étais enfermé, il est observé également, durant 3 mois environ, je remarquais parmi les prisonniers qui prenaient l'exercice avec moi un jeune homme qui me fit l'effet d'un simple ou d'un faible d'esprit. Chaque prison, certainement, compte au nombre de ses clients des faibles d'esprit, des récidivistes à perpétuité, dont la vie entière, on peut le dire, se passe en prison. Mais ce jeune homme me frappait, car il semblait plus faible d'esprit qu'aucun autre, en raison d'une grimace et d'un rire idiot qui travaillaient sa face et des gestes qui perpétuellement agitaient ses mains. Tous les prisonniers avaient remarqué l'étrangeté de sa conduite. De temps en temps, il ne figurait pas à la promenade, ce qui indiquait qu'il avait été puni et condamné à rester en cellule. Finalement, je découvris qu'il était en observation et surveillé jour et nuit par des gardiens. Lorsqu'il venait à l'exercice, il semblait toujours en proie à une crise d'hystérie. Il tournait en rond en criant, en riant. À la chapelle, il était placé sous la surveillance de deux gardiens qui l'observaient soigneusement. Quelquefois, contrairement au règlement, il se cachait toute la figure dans les mains et les gardiens immédiatement tiraient sa face afin que ses yeux fussent continuellement fixés sur la table de communion. D'autres fois, sans aucun trouble, des pleurs inondaient abondant sa face et le sanglot hystérique râlait dans sa bouche, ou bien encore Il grimaçait idiotement. Et plus d'une fois, il dut être intégré dans sa cellule, où toujours il fut puni, comme le banc sur lequel j'étais assis à la chapelle. Ça suivait immédiatement, derrière celui à l'extrémité duquel le malheureux était placé, j'eus le loisir de l'observer. Je le visais également à la promenade, continuellement, et constatais de la sorte qu'il devenait fou et quel traitement lui était appliqué. Le lundi de la dernière semaine, vers 1 heure, j'étais occupé dans ma cellule à nettoyer les gamelles qui m'avaient servi pour le dîner, lorsque tout à coup le silence de la prison fut rompu par des cris de douleur, ou plutôt par des hurlements, qu'au premier lieu je crus qu'il s'agissait de quelque animal, bœuf ou vache, que l'on tuait maladroitement en dehors de la prison. Mais peu après, cependant, je me rendis compte que les hurlements venaient de la partie inférieure du bâtiment et qu'un pauvre diable y était fouetté. Je n'ai pas besoin de dire quelle atroce sensation cela me fit. Je me demandais ce qui pouvait être celui que l'on punissait ainsi de cette façon révoltante. Soudain, l'idée surgit en moi que c'était en train de fouetter le malheureux fou. Ma sensibilité n'a pas besoin d'être relatée ici. Elle est tout à fait étrangère à la question. Le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche, je vis le pauvre homme à la promenade, avec sa malheureuse figure ravagée par les larmes et l'hystérie, presque méconnaissable. Il marchait dans le cercle central, avec les vieillards, les mendiants et les estropiés, de sorte qu'il me fut aisé de l'observer complètement. C'était mon dernier dimanche en prison, un jour délicieux, le plus beau jour que nous puissions avoir eu de toute l'année. Ce jour-là, le soleil s'était superbe et marchait une pauvre créature, image autrefois de l'île de Dieu, grimaçant aujourd'hui comme un singe qui faisait avec les mains des gestes fantastiques, comme s'il eût joué dans l'air avec quelque instrument à cordes. Cependant, les pleurs hystériques dans lesquels nul de nous ne l'avait jamais vu, creusaient de profonds sillons dans sa figure boursouflée. Les autres prisonniers l'observaient, mais nul d'entre eux ne souriait. Après une demi-heure, le gardien lui donna l'ordre de rentrer, et je crois que ce fut pour le punir. Le lundi, il n'était pas à la promenade. Quoiqu'il me semblait l'apercevoir au loin de la cour, sous la surveillance d'un gardien. Le matin, qui fut mon dernier jour de prison, je le vis à la promenade. Il était dans un état encore plus pitoyable qu'auparavant. Depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais j'avais appris d'un des prisonniers qui marchait avec moi à mes côtés à la promenade qu'il avait reçu 24 coups de fouet dans la cookhouse, punition motivée par le rapport du docteur. Les hurlements qui m'avaient tant horrifié étaient donc bien les siens. Cet homme indubitablement devient fou. Les médecins de prison n'entendent rien aux maladies mentales. En aucune façon. C'est une catégorie d'hommes ignorants. La pathologie de l'esprit leur est totalement inconnue. Lorsqu'un homme devient fou, il le traite comme un infâme et il le punit tant et tant. Naturellement, l'homme devient méchant. Les peines ordinaires, lorsqu'elles sont épuisées, le médecin s'adresse au juge. Et le résultat est la fustigation. Certainement, la fustigation n'est pas appliquée à l'aide d'un chat à neuf queues. C'est ce qu'on appelle verger. L'instrument est une verge dont on peut imaginer les résultats sur un malheureux faible d'esprit. Son numéro est ou fut A2211. Je me suis aussi efforcé d'avoir son nom. C'est P. Quelque chose devrait être fait pour lui immédiatement. C'est un soldat et sa condamnation vient de la cour martiale. Elle est de 6 mois sur lesquels il nous reste à faire 12, 3. Puis-je vous demander d'employer votre influence de manière que soit examiné le plus vite possible le prisonnier dément et qu'il soit traité convenablement. Nul rapport des commissaires médicaux ne peut être pris en considération et considéré comme sérieux. Les inspecteurs médicaux ne semble pas comprendre la différence qu'il y a entre la folie, la démence et l'idiotie, entre l'atrophie complète d'une façon ou d'une fonction ou d'un organe et les troubles qui peuvent affecter cette fonction ou cet organe. Cet homme A211 pourra sans aucun doute dire son nom. La nature de son délit, le jour et le mois de sa condamnation, du commencement et de son expiration de la peine. Il pourra répondre à une simple question. Mais que son esprit soit affecté, cela est indubitable. À l'heure actuelle, c'est un duel terrible entre lui et son docteur. Le médecin combat pour une théorie, l'homme pour la vie. J'aspire à ce que l'homme triomphe. Mais laissez-le examiner le cas par des experts qui comprennent les affections cérébrales et par des gens de sentiments humanitaires qui ont quelque bon sens et quelque pitié. Il n'y a pas de raison pour que le sentimentalisme intervienne. Il fait toujours plus de mal que de bien. En vérité, il a apporté dans la vie de la prison un changement total. En outre, le système, c'est certainement au-delà de son pouvoir. Changer le règlement n'est pas dans ses attributions. Mais je ne doute pas que, journellement, il s'aperçoive des faits qui disent être injustes, stupides, cruels. Je ne sais pas. Quelle est cette opinion, son opinion sur le cas de A2211, ni à la vérité sur le système actuel. Je juge simplement par le changement complet qu'il apporta à Reading. Sous son prédécesseur, le règlement était appliqué avec la plus grande rudesse et stupidité. Je suis monsieur votre etc. Oscar Wilde.